RFI, les 14h30 à Goma, une heure de moins à Paris. Et c'est Afrique Midi sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Alban Le Prince. Bonjour à toutes et à tous. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté d'Afrique australe sont réunis depuis ce matin en Tanzanie. Un sommet extraordinaire des deux organisations pour discuter de la crise dans l'Est de la RDC. Sur le terrain, le Burundi envoie des renforts aux côtés de l'armée congolaise. On revient sur les raisons de cet engagement de Gitega avec le chercheur Thierry Vircoulon. Il est notre invité dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Les contrats des fonctionnaires maliens, nigériens et burkinabés de la CDAO se termineront le 30 septembre. Ils ont reçu leur lettre de fin de contrat. Les trois pays aujourd'hui regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel ne sont officiellement plus membres de la communauté ouest-africaine. Et puis le Tchad a un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe a été dévoilée hier soir. Peu de changements par rapport à la précédente. À noter toutefois le départ du ministre des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Afrique de l'Est et ceux de la communauté d'Afrique australe sont réunis ce matin à Dar es Salaam, en Tanzanie. Les chefs d'État sont attendus demain en principe. Un sommet extraordinaire des deux organisations pour discuter de la crise dans l'Est de la RDC. Jusqu'ici, elles avaient mené des processus de paix parallèles. Gaël Alex, on vous retrouve en ligne de Nairobi. L'EAC et la SADC entendent aujourd'hui accorder leur violon sur une stratégie commune de sortie de crise.
Oui, c'est le travail préparatoire que doivent faire aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de ces deux blocs régionaux. Le dossier est sensible, c'est d'ailleurs à huis clos que se tient ce sommet. Mais on sait au moins que les ministres des Affaires étrangères de la RDC...
Gaël Alex, on a un peu de mal à vous entendre. On va vous rappeler pour pouvoir rétablir une connexion correct. Je signale en attendant que les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme se penchent eux aussi aujourd'hui sur la situation dans l'Est du Congo. Ils doivent décider s'ils envoient en urgence une mission d'enquête sur les exactions commises à Goma. Goma où la situation humanitaire est mauvaise. 3000 morts dans les combats, des risques d'épidémie et une ville toujours inaccessible. Le haut commissaire du Conseil des droits de l'homme, Volker Türk, ce matin a appelé à un cessez-le-feu et au respect du droit international humanitaire.
Ceux qui pensent trouver la solution par la voie militaire ont tort. J'appelle toutes les parties à déposer leurs armes et de reprendre le dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Entre-temps, toutes les parties au conflit doivent respecter les droits humains et le droit international humanitaire. Le M23, les forces rwandaises et tous les acteurs qui le soutiennent doivent faciliter le passage de l'aide humanitaire. Il faut rouvrir l'espace aérien et les voies terrestres et lacustres pour établir un corridor humanitaire et garantir la sécurité des acteurs humanitaires. Dans de telles circonstances, il est crucial d'établir les faits et de traduire les auteurs de violations en justice. Il est donc nécessaire d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les violations et les abus aux droits humains et les violations du droit international humanitaire.
Volker Türk, le haut commissaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et on retrouve à présent avec une ligne meilleure Gaël Alex en ligne de Nairobi. Gaël, l'EAC et la SADC sont aujourd'hui en sommet au niveau des ministres des Affaires étrangères à Dar es Salaam pour s'accorder sur une stratégie de sortie de crise dans l'Est du Congo.
Oui, comme je vous le disais, c'est le travail préparatoire que doivent aujourd'hui faire les ministres des Affaires étrangères de ces deux blocs régionaux. Alors le dossier est sensible, hein, c'est d'ailleurs à huis clos que se tient ce sommet, mais on sait au moins que les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sont présents. La ministre congolaise affirmait hier à RFI aborder ces discussions de bonne foi. Elle rappelle néanmoins que les exigences de la RDC pour amorcer un dialogue restent inchangées, à commencer par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais.
Gaël, cette réunion sur la RDC se tient au moment où la pression internationale monte pour trouver une solution à la crise.
Oui, aujourd'hui, les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU doivent décider de l'envoi d'une mission d'enquête sur les exactions dans l'est de la RDC. Ce matin sur X, l'Institut Van Batten-Montaigu-York, un think tank très proche de Donald Trump, affirmait que le président américain était très préoccupé. L'Institut revient sur la nécessité d'un cessez-le-feu et s'inquiète de voir les troupes du M23 de nouveau en mouvement. Hier, le président kényan William Ruto s'est également entretenu avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Dans un communiqué publié ce matin, Amnesty International demande plus d'engagement de la part de toutes les organisations internationales afin de dénoncer les responsables des attaques à Goma et de s'assurer qu'ils répondront de leurs actes dans le cadre de procès équitables.
Gaël Alex, en ligne de Nairobi, sur le terrain, on apprend que 3 collaborateurs congolais de l'ONG Entraide proteste en Suisse ont été tués mercredi dans une attaque lors d'un déplacement humanitaire à Kabirangiriro, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Les corps ont été transportés à Kibirizi, zone contrôlée par le M23. L'ONG a suspendu toutes ses activités dans la région. Elle dénonce une grave violation du droit international humanitaire. Plus au sud, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent leur offensive. Après l'occupation de Goma, les combats sont désormais dans la province voisine du sud Kivu. Mercredi, les autorités congolaises annonçaient que la cité de Niabibwe était tombée aux mains du groupe armé. Depuis, le front se déplace petit à petit vers le sud et provoque des déplacements de population vers la ville de Bukavu, comme en témoigne ce militant de la société civile, joint par Alexandra Branjon.
De Niabibwe, il y a eu un mouvement de la population vers Kalehe. Et maintenant, les gens quittent Kalehe vers Bukavu. Donc, plus les fronts avancent, plus les gens ont tendance à quitter leur village pour Bukavu. Ils vont pour sauver la vie sans savoir exactement où ils vont. Il y en a qui fuient, vous voyez que les gens sont en train de fuir. Les fronts, ceux qui ont des moyens pour quitter ces villages-là ont pris des véhicules pour venir à Bukavu, on le voit. Mais ceux qui sont venus à pied et qui viennent avec des objets sur la tête et des enfants, ils se dissimulent dans les villages vers Katana. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est ce à quoi on s'attend avec l'arrivée de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Nous les connaissons depuis 30 ans, nous savons leur mode opératoire. Nous savons comment ils font, qui est-ce qu'ils visent, qui est-ce qu'ils tuent. Donc, c'est ça qui est plus inquiétant. Et puis, la ville de Bukavu, la province du Sud Kivu, c'est une province vraiment hostile au régime de Kigali. Donc, c'est ça qui fait peur à la population.
Sur la ligne de front, le Burundi, allié de la RDC avec laquelle il avait signé un accord de coopération militaire, est de plus en plus présent. Quelques 10 000 hommes de la Force de Défense Nationale du Burundi sont en territoire congolais. Mais s'ils étaient initialement dans les hauts plateaux du Grand Sud Kivu, ils sont maintenant en nombre face au M23 et l'armée rwandaise dans le territoire de Kalehe. Et des renforts, Esdras Dikoumana, sont en cours d'acheminement.
Oui Nicolas, et c'est une information de dernière minute. Un nouveau bataillon, le 22e Tafok pour Task Force dans le jargon militaire, qui était en train d'être rassemblé à Gatumba, ville frontière avec la RDC, est en route maintenant vers la région de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, et va être déployé. Ce qui va porter à 16 le nombre de bataillons burundais déployés aujourd'hui dans l'est de la RDC, c'est de 8 à 12 000 soldats. Impossible d'être plus précis selon nos sources, car tous les bataillons ne sont pas composés du même nombre de soldats.
Alors, 5 de ces bataillons opèrent dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. Ils font la guerre aux rebelles burundais. Mais le gros du contingent est désormais déployé plus au nord.
Oui, 5 à 6 000 soldats sont aujourd'hui intégrés dans le dispositif de défense de Bukavu pour tenter de barrer la route au M23 soutenue par le Rwanda. Il s'agit d'un régiment placé sous les ordres du général Poncien Hakizimana alias Mingi. Un régiment, c'est 4 brigades constituées chacune de 3 bataillons. Ils sont aux avant-postes, notamment Kalehe, Kamanyola et surtout autour de l'aéroport de Kavumu. La task force du Burundi, très aguerrie, est essentielle dans ce dispositif selon un haut gradé burundais et l'a permis, je cite, de retarder, de conquérir par moments des localités et même d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi M23 et rwandais dans le nord Kivu, fin de citation, même si elle est très mal équipée, manque de ravitaillement et a subi elle aussi de très lourdes pertes, a-t-il concédé.
Et on revient sur cet engagement burundais en RDC dans la deuxième partie d'Afrique Midi avec le chercheur Thierry Vircoulon. Il est notre invité. Le Tchad a désormais un nouveau gouvernement. Il a été dévoilé hier. L'équipe gouvernementale, toujours conduite par le Premier ministre Alamaï Alina, comporte peu de changements par rapport à la précédente. 2 départs notables cependant. dont celui du ministre des Affaires étrangères, Victor Moria.
Après presque 4 ans de présence continue, Abderrahman Koulamallah quitte le gouvernement. Il était depuis 8 mois chef de la diplomatie et porte-parole du gouvernement, un mandat durant lequel il a notamment géré le départ de l'armée française du Tchad en qualité de président de la commission chargée de la dénonciation de l'accord de défense entre le Tchad et la France. Il est remplacé par l'ancien chef de cabinet du président Mamad Déby, Abdoulaye Sabre Fadoul, au ministère des Affaires étrangères. Celui qui fut plusieurs fois ministre fait donc son retour aux affaires après un départ agité de ses précédentes fonctions. Le porte-parole revient lui à Gassim Cherif, un ex-politico-militaire rentré au Tchad suite à l'accord de Doha. L'autre figure de la politique tchadienne à quitter le gouvernement est Aziz Mamad Saleh. Le désormais ex-ministre des Infrastructures a récemment été nommé secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, le parti présidentiel. A noter également l'arrivée de Youssouf Tom au ministère de la Justice. L'ancien magistrat était jusqu'alors contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Victor Morian Jamena, RFI.
Les fonctionnaires maliens, nigériens et burkinabés de la CEDEAO ont reçu leur lettre de fin de contrat. Les trois pays aujourd'hui regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel ne sont officiellement plus membres de la communauté ouest-africaine. Les modalités concrètes de sortie doivent encore être négociées, mais le cas des employés de la CEDEAO ressortissants de l'AES est donc déjà tranché. Leur contrat prendra fin dans 8 mois, David Bachet, le 30 septembre prochain.
Oui, les lettres de fin de contrat ont déjà été envoyées à 135 Maliens, Nigériens et Burkinabés travaillant à la CEDEAO, selon le chiffre fourni à RFI par l'organisation ouest-africaine. Tous bénéficieront de l'équivalent de 3 mois d'indemnité de salaire, auxquels s'ajouteront 1 mois par année d'ancienneté, avec un plafond de 12 mois. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de négociations, elles correspondent au texte réglementaire de la CEDEAO. Nous avons reçu la lettre par mail, témoigne l'un des concernés avec amertume, sans préparation, sans empathie, alors que certains d'entre nous ont plus de 20 ans de maison. Nous sommes victimes d'une décision que nous n'avons pas prise. Et pour la suite, tout sera question d'opportunité, pose ce technicien qualifié qui n'exclut ni une nouvelle expatriation, ni un retour au pays pour servir les institutions nationales. Il n'y a rien de plus beau que de contribuer au développement de son pays, confie cette source. Mais je suis un démocrate, je ne sais pas si je pourrais être utile au régime militaire en place. Surtout, ses inquiétudes portent moins sur sa propre carrière que sur l'issue des négociations qui doivent s'ouvrir entre la CEDEAO et l'AES et sur l'avenir des populations des trois pays.
Il est midi 42 à Bamako.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, polémique sur la fin du mandat du président Oumarou Sissoko Embalo en Guinée-Bissau. Les sports, on retournera en RDC où le championnat de foot devrait bientôt reprendre en dépit de la situation sécuritaire. Et puis nous découvrirons les annoteurs de Madagascar, ces employés du secteur de l'intelligence artificielle qui fournissent à l'IA leur expertise dans les domaines les plus variés, de la finance à la médecine. Voilà une affaire qui est loin de faire consensus en Guinée-Bissau. Le président Oumarou Sissoko Embalo dit vouloir rester au pouvoir jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Léa Lisa Westerhoff, on vous retrouve en direct de Dakar. La Cour suprême de Bissau a fixé la fin officielle du mandat présidentiel au 4 septembre, mais la date est contestée par l'opposition qui estime que la présidence Embalo s'achève en fait dans 3 semaines à peine.
Oui, pour le chef de l'opposition, l'ancien Premier ministre Domingo Simões Pereira, le mandat du président se termine le 27 février prochain, car cette date correspond à celle de l'investiture d'Oumarou Sissoko Embalo il y a 5 ans. La Cour suprême a de son côté choisi de retenir le 4 septembre comme date butoir, car c'est la date à laquelle elle avait validé l'élection contestée du président Embalo. Mais hier, le chef de l'État est allé plus loin encore que la décision de la Cour suprême, puisque le président Embalo a dit qu'il resterait au pouvoir jusqu'à l'investiture d'un nouveau président. Je vous propose de l'écouter. Oumarou Sissoko Embalo s'exprimait en marge du Conseil des ministres.
Tout le monde sait que dans notre système, le processus électoral commence à la Cour suprême et s'y termine également pour des raisons de légalité. Indépendamment du 4 septembre, la loi électorale établit que les élections présidentielles ont lieu tous les 5 ans au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est très clair. Chers amis, nous sommes en février, nous allons aux élections, donc personne n'est pressé. Ceux qui commentent contre moi savent que leurs thèses sont hors du temps. Et je dis toujours que je resterai en fonction jusqu'à l'investiture du nouveau président.
Léa Lisa Oumarou Sissoko Embalo compte donc rester au pouvoir au-delà du 4 septembre, fin de son mandat tel que fixé par la Cour suprême.
Oui, voilà qui va attiser un débat très animé déjà en Guinée-Bissau, car la Constitution est claire et stipule bien que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Pour l'heure, l'opposition continue de réclamer le départ du chef de l'État au 27 février prochain et la mise en place d'un président par intérim. Dans tous les cas de figure, le chef de l'État doit annoncer au 31 mars, au plus tard, quand se tiendra la présidentielle.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI en direct de Dakar. Les sports du football arrêtés depuis quelques semaines en raison notamment de la situation sécuritaire dans l'Est. Le championnat de la RDC devrait bientôt reprendre. La décision a été actée hier par la Fédération congolaise de football, la Ligue et un échantillon de clubs. Reste à élaborer un calendrier adéquat capable de programmer d'ici au mois de mai les 121 matchs restants de la phase régulière ainsi que la décisive phase des play-offs. Un vrai casse-tête à Kinshasa, les explications d'Olga Massangou.
Les trois clubs ont accepté de se délocaliser dans un premier temps. C'est déjà une bonne nouvelle.
Des mots rassurants, d'entrée prononcés par Innocent Kibundulu, le secrétaire du comité de normalisation de la FECOFA. Les trois clubs qui ont accepté de se délocaliser sont Bukavu Dawa, Dauphin Noir et l'Étoile du Kivu, dont le représentant évoque déjà des difficultés vu la volatilité de la situation sécuritaire actuellement au sud Kivu. Joseph Bahati.
Pour le moment, Étoile du Kivu est coincée. Parce que ne fût-ce que quitter Nyangezi dans le territoire de Walungu où l'équipe se trouve et arriver à Bukavu, il y a déjà un risque.
La Ligue nationale de football doit organiser 121 matchs pour clôturer avec la phase classique qui précède les play-offs. Héritier Indoula, le représentant du TP Mazembe, ne croit pas cela possible avant la fin de la saison.
Nous entamons pratiquement la deuxième quinzaine du mois de février. Ça sera difficile d'organiser la phase classique en sa phase retour et les play-offs.
Troisième la saison dernière, le FC Santoula Loupopo de Lubumbashi vise le titre cette saison. Mais son secrétaire Jean-Luc Capinde veut que le championnat aille jusqu'au bout.
Nous ne voulons pas être piégés. Aujourd'hui, on commence la phase retour et la phase retour se termine. Sans organiser le play-off, on nous exige que l'on puisse reconduire le classement de l'année passée. Nous, Loupopo, nous avons les ambitions de prendre le trophée.
Une commission est mise en place pour l'élaboration d'un calendrier réaliste qui mènerait le championnat à son terme. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
Calendrier qui devrait être publié samedi. Le sommet sur l'intelligence artificielle se poursuit à Paris. Il a débuté à l'école d'ingénieurs polytechniques avec 2 journées de table ronde et se poursuivra jusqu'au 11 février. Pour que l'IA soit performante, il faut qu'elle soit nourrie par des millions d'informations fiables. Des informations fournies notamment par ceux qu'on appelle les annotateurs. Ils sont détenteurs d'une expertise dans des domaines particuliers, construction, défense ou encore finance. Et dans ce domaine, Madagascar s'est taillé une belle réputation. Notre correspondante Sarah Teto s'est rendue dans l'une des sociétés leaders du traitement des données.
Derrière les centaines d'ordinateurs qui s'étalent à perte de vue, des employés jeunes, âge médian 26 ans, et spécialisés. Armés de leurs souris, ils font défiler des images devant eux, calculent, analysent et qualifient ce qu'ils voient. Eux, ce sont des annotateurs, des experts dans leur domaine, grâce auxquels Madagascar peut aujourd'hui compter pour se positionner dans l'écosystème mondial de l'IA, explique Mathieu de Berset, directeur des opérations chez Ingé Data.
Madagascar n'est pas sur la carte du monde dans tout ce qui va être conception, par exemple, d'algorithmes. Par contre, dans tout ce qui est traitement de la data, on est assez avancé pour l'Afrique en général, où on a des qualifications qui sont devenues même des spécialités et qui sont reconnues internationalement par les clients finaux.
Médecins, juristes, spécialistes de l'environnement, concepteurs 3D, pour les besoins des projets remportés, l'entreprise a su s'entourer de jeunes qualifiés.
Par exemple, on va avoir des annotateurs qui vont être sur des niveaux d'expertise, qui vont bluffer des experts internationaux, notamment sur de l'observation satellite, également sur tout ce qui va être medtech, c'est-à-dire la technique au service du médical, où on va avoir des algorithmes qui sont enrichis par des données qualifiées à Madagascar.
Ici, des médecins qui annotent des électrocardiogrammes pour pouvoir permettre aux algorithmes de cardiologie de détecter des anomalies cardiaques. Là, des ingénieurs qui analyse des photos satellites de champs de maïs pour réduire l'utilisation de pesticides. La notation, un métier en plein boom, très demandeur en main-d'œuvre et qui offre une solution pour lutter contre le chômage massif des jeunes diplômés malgaches. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
13h49 à Paris. Alban Leprince, les grands titres de ce vendredi 7 février.
Vive condamnation aujourd'hui de la Cour pénale internationale qui s'engage à continuer de rendre justice dans le monde. Hier, Donald Trump, le président américain, a signé un nouveau décret pour sanctionner la CPI et son personnel. Pour lui, elle a engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et Israël, dont le premier ministre Benjamin Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, réuni en session extraordinaire, il doit décider de lancer ou non une mission internationale pour examiner les exactions commises dans l'est de la RDC, en proie à une offensive du groupe armé du M23. En Suède, après la fusillade qui a fait 10 morts mardi, le gouvernement a annoncé aujourd'hui vouloir limiter l'accès à certaines armes semi-automatiques. Et puis, pour être français, il faut respecter le mode de vie et les principes républicains. Déclaration aujourd'hui de Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Il était en déplacement à l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. De son côté, François Bayrou, premier ministre français, a dit tout à l'heure vouloir un débat plus large sur, je cite, « qu'est-ce que c'est qu'être français ?» Des soldats burundais au combat aux côtés de l'armée congolaise face au M23 et l'armée rwandaise au sud Kivu. On revient sur les raisons de cet engagement avec Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il est votre invité, Nicolas Thur.
Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour.
Pourquoi les soldats burundais sont-ils sur le front aujourd'hui? Est-ce parce que le Burundi est allié de la RDC ou pour éviter que le M23 et ses alliés rwandais n'arrivent jusqu'à ses frontières?
L'armée burundaise est en RDC depuis longtemps, plusieurs années. Elle a une présence surtout au sud Kivu, dans le cadre d'un accord de coopération de sécurité avec le Congo. Et au sud Kivu, elle a été déployée il y a plusieurs années pour traquer les opposants armés du régime burundais.
Dans les hauts plateaux du sud Kivu, hein, initialement.
Oui, tout à fait, dans le sud Kivu. Elle a été ensuite, quand la rébellion du M23 a commencé, elle s'est même déployée jusqu'au nord Kivu. Et elle a déjà eu, d'après ce qu'on dit, des affrontements avec le M23 au nord Kivu. Et donc maintenant, elle attend en quelque sorte la nouvelle offensive du M23 sur le sud Kivu. Apparemment, d'après ce qu'on dit, elle serait même positionnée près de l'aéroport de Kavumu, qui semble être l'objectif stratégique du M23.
L'aéroport de Kavumu étant celui de la ville de Bukavu. On avait parlé de 10 000 soldats burundais déployés en RDC, donc majoritairement ils sont aujourd'hui sur ce front du M23, plus dans les hauts plateaux.
Oui, apparemment, ils se préparent pour la bataille avec le M23, avec la crainte du gouvernement burundais de voir le sud Kivu, une partie du sud Kivu, tomber dans les mains du M23. Et les propos du président de la République burundaise étaient très explicites sur cette crainte et sur le fait qu'il y ait une extension du M23 sur le sud Kivu.
Le président Ndayishimiye a accusé en effet le Rwanda, je cite, de préparer quelque chose contre le Burundi. Qu'est-ce qu'il redoute exactement selon vous? Une déstabilisation, un soutien du Rwanda à des rébellions burundaises, une invasion en bonne et due forme?
Il redoute une victoire du M23 qui serait en fait une victoire du Rwanda. Et comme les relations entre le Rwanda et le Burundi sont mauvaises depuis très longtemps, il a peur en effet qu'il y ait une forte pression rwandaise contre son régime. Il y a en effet des opposants Rwanda, je pense notamment au mouvement du Red Tabara, qui sont soutenus par Kigali. Et qui ont procédé à des attaques contre le Burundi à partir du sud Kivu et même parfois à partir du Rwanda, d'après ce que disaient les Burundais. Donc il craint évidemment qu'il y ait une double pression à la fois par le M23 et par le Red Tabara. contre son régime.
Est-ce que c'est aussi le poids de l'histoire? Le CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir à Gitega, s'était battu contre la présence rwandaise au Congo lors des deux guerres de 96 et 98.
Ah ben, ce sont deux régimes ennemis de toute façon depuis très longtemps. Et c'est un peu inscrit, c'est un peu la logique de l'histoire de ces deux pays d'avoir eu très souvent des régimes ennemis opposés. Donc ceci n'a pas cessé. Il y a eu un regain de tension entre le Rwanda et le Burundi lors de la crise de 2015, où beaucoup de réfugiés burundais se sont rendus au Rwanda. Et ça a donné lieu au mouvement armé dont je parlais. Depuis 2015, il y a des tensions sporadiques entre les deux capitales, des moments de calme, des moments d'énervement. Sur le fond, la relation entre le Burundi et le Rwanda, enfin le régime burundais-rwandais, a toujours été difficile et voire mauvaise.
Jusqu'où ça pourrait aller, selon vous, une internationalisation du conflit, y compris en dehors des frontières congolaises, est-elle à craindre ?
Bah plutôt une régionalisation du conflit. D'ailleurs, bon, cette régionalisation, elle a déjà commencé, hein, à partir du moment où, comme je le disais, l'armée burundaise a déjà été engagée contre le M23 au Nord Kivu. Dans la mesure où elle attend le M23 à Kavumu, en tout cas veut protéger la zone de Kavumu, dans la mesure où il y a déjà eu une quinzaine de morts de l'armée sud-africaine, on peut dire qu'on est déjà dans une logique de régionalisation du conflit.
Merci Thierry Vircoulon. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet Invité d'Afrique Midi. Et on referme cette édition avec l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le nom du vainqueur sera annoncé le 18 février et vous pouvez voter pour votre favori jusqu'au 16 sur notre site internet. On écoute aujourd'hui Jenny Parea, slammer et chanteur venu de RDC. Le titre s'appelle Trans.
J'ai connu l'amour, mais c'était à la télé. J'ai connu la femme de mes rêves, non, ce n'est qu'un rêve, désolé. Après, c'est les matins, la réalité me rattrape. Quelques larmes vont couler, je ne ferai donc pas des snaps. Et je meurs dans une bouteille, oui, je me plonge dans mes soucis. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur du vide. Et je vous jure, je suis ivre, mais je n'ai pas bu, je vous jure. Envie de m'évader à travers une danse, je suis en transe et j'ai dit assez, assez peiné, assez pleuré. J'ai encaissé, je suis fauché. Le bonheur, j'y vais inventer, puis avancer, puis m'inventer. Assez, 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 assez peiné, assez pleuré. J'ai encaissé, je suis fauché. Le bonheur, j'y vais inventer, puis avancer, puis m'inventer. Assez, assez. Les hommes ne pleurent pas, ce qui vient de mes yeux, c'est ma sueur. Pourquoi pleurer si on ne t'aide pas? Mes alliés sont des adversaires. Le diable est à mes trousses. Son sueur a gagé mon pasteur. Être soi, c'est être fou. Interdiction d'être soi-même. Demande un coup de pouce. J'ai reçu le troisième doigt. Big up à Wiwo Axe. Que serais-je sans nous trois? Elle s'est mariée, ma destinée. Parce que les prétendants et salariés. Parce que l'art ne paye pas les poètes. N'a que des vers à la saouler. Assez, assez peiné, assez pleuré. J'ai encaissé, je suis fauché. Le bonheur, j'y vais inventer, puis avancer, puis m'effanter. Assez, 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 assez peiné, assez pleuré. J'ai encaissé, je suis fauché. Le bonheur, j'y vais inventer, puis avancer, puis m'effanter. Assez, assez. L'histoire se répète, déçu par une bombe, mais c'est moi qui pète. Oui, je l'ai trouvé, mais c'est moi qui m'épère. Oui, je suis bourré, c'est la joie qui m'effraie. Sourire me fait peur, folie mais en vrai. Paix, peine, blé, puis on pleure. Douceur, doute, double, douleur. Bizarrement, j'ai danse.
Et c'est avec Jenny Parea, l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI, que se referme cette demi-heure africaine. Merci de nous avoir suivis.
Bon week-end Nicolas Sûr, et dans 2 minutes, selon votre zone d'écoute, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Voilà 10 ans qu'ils nous font danser dans un style unique qui marie rythmes africains et sonorités disco. Le groupe Voilà, avec 3A, qui vient de sortir son 3e album, C'est tout. Ils seront de passage à Paris à l'occasion du festival Au fil des voix et avec nous dans l'émission.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amard, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Boston, février 42. Dans un petit journal local naît une rubrique appelée la clinique des rumeurs, une sorte de laboratoire du fact-checking d'aujourd'hui. Pascal Froissart a enquêté sur cette initiative éphémère. Son mode opératoire et ses dérives sont riches d'enseignements à l'heure des réseaux sociaux et de la guerre de l'information.
Les dessous de l'infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI.